Chers frères et sœurs et chers amis, ceci est l'étude numéro 8. Et le titre, c'est « Du désespoir à l'espérance ». Selon saint Matthieu, chapitre 10, verset 28, il est écrit « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais ne sauraient tuer l'âme. » Existe-t-il, chers amis, une vie que ne traverse aucun obstacle? Vivre, n'est-ce pas déjouer des forces qui tentent de nous vaincre? Déjà dans le règne animal, la lutte pour la vie n'est-elle pas impitoyable? Je rêve d'une éducation qui préparerait les enfants à triompher des menaces qui ne manqueront pas de les assaillir. Car comment l'homme peut-il affronter les forces qui vont s'acharner à le faire mourir s'il ne se prépare pas très tôt à cette lutte? Jésus-Christ a reçu cette éducation, en effet. Comme tout jeune juif, il fut instruit avec les textes de la première alliance. Toute la Bible est le récit le plus superbe d'une longue résistance. Le sort s'acharne contre le peuple hébreu issu du cœur de Dieu. Jalousie, haine, mépris, rien ne manque. Répondre à l'appel du Très-Haut, c'est consentir à entrer dans son combat contre les forces de mort. Mon fils, si tu prétends servir le Seigneur, prépare-toi à l'épreuve. L'or est éprouvé dans le feu, et ceux qui acceptent l'appel de Dieu passent par la fournaise des humiliations. Jésus-Christ affrontera donc à son tour la jalousie, la haine et le mépris. Il a vu se coaliser contre lui toutes les forces que son peuple avait eu à défier. Jésus-Christ résume en lui le destin d'Israël. Il s'agit pour lui, comme pour ce peuple, de révéler le visage de Dieu. Il y va de tout, car l'avenir du monde est en jeu. Comment évoquer la force d'âme qu'il lui fallut pour garder le feu sacré, pour garder la foi dans toute sa mission? Il réalisera très vite le déséquilibre du rapport de force entre lui et ses adversaires. Lui, tout Dieu qu'il est, fut impuissant contre l'endurcissement des consciences, les procès d'intention, la bêtise et la cruauté, sans compter ses éternelles émergences du mal. L'homme a chassé l'absolu de l'amour hors de son cœur. Dieu, dans son amour infini pour l'homme, veut le rétablir dans sa vérité. Comme un médecin, il vient décrire le mal et proposer un chemin de guérison. Il s'entend répondre « Nous n'avons pas besoin de toi. » Peut-on imaginer la souffrance de Jésus-Christ devant ce refus? Y a-t-il pire solitude qu'un tel mépris de la part de ceux qu'il est venu sauver? Il rend la vue à des aveugles. Il fait marcher des paralysés. Il fait entendre des sourds et parler des muets. Au lieu d'un élan de reconnaissance, c'est la haine qui monte. Jésus ne se laisse pas troubler. Il en appelle à la conscience de ceux qui le haïssent. Je vous ai fait voir des actions merveilleuses venant du Père. Et ceci pour laquelle me lapidez-vous? Je vous le demande. Pourquoi voulez-vous me lapider? Et ses adversaires de choisir parmi les actions de Jésus-Christ la plus importante. Ils la désignent comme le motif unique de leur décision de mort. C'est pour un blasphème. Toi, qui n'es qu'un homme, tu te fais Dieu. Évangile de Saint Jean, chapitre 10, versets 31 à 33. Le projet essentiel de Jésus-Christ se heurte à un refus. Et cet échec, loin de le décourager, semble le stimuler. Une force intérieure l'habite. Vous me laisserez seul. Mais non, je ne suis pas seul. Le Père est avec moi. Évangile de Saint Jean, chapitre 16, verset 32. Oui, c'est Dieu qui était là déjà dans le cœur de Joseph, fils de Jacob, sauvant la vie de ceux qui ont voulu sa mort. C'est lui qui était là dans le cœur blessé d'Osée, changeant son amertume en chant d'amour. En chacun de ceux qui mettent leur confiance en la tendresse de Dieu, il est là, continuant sa longue marche et son combat. Jésus-Christ ne laissera jamais ses disciples dans l'illusion d'une vie simple et facile. Pour lui, l'existence est un défi, un affrontement. Des forces adverses vont se ruer sur chacun de nous. Ce sera comme un test. Tu tiendras bon ? Où tu craqueras selon que tu auras pris les moyens d'agir. Creuse profondément les fondations de ta maison et construis-la sur un rocher, sur du solide. Alors, les torrents peuvent se ruer sur ta maison, ils ne pourront pas du tout l'ébranler, car elle est construite sur le roc. Saint Luc, chapitre 6, verset 48. Et quel est donc ce rocher dont parle Jésus-Christ? Il s'agit d'une attitude où l'on ne se contente pas de s'émerveiller de la parole de Dieu. Il faut la traduire dans des actes. Ce ne sont pas nos connaissances qui nous rendent solides, mais c'est notre pratique. Aime et tu vivras. Non pas un amour de parole, mais un amour en acte. C'est notre générosité concrète qui nous établit peu à peu sur le roc. Celui qui écoute la parole de Dieu et n'agit pas, celui-là construit sur le sable. Les flots surviennent, la maison s'écroule. C'est le désastre. Saint Luc, chapitre 6, verset 48. Voyez-vous, mes chers amis, tôt ou tard, le jeune fait une découverte capitale, c'est-à-dire il comprend tout à coup que le mal existe. Son cœur assoiffé d'harmonie et fragile se brise. La jeunesse est l'âge où la soif d'absolu est la plus vivace, la plus sauvage aussi. J'entends dire souvent « les jeunes ne connaissent pas la joie ». ils n'en connaissent qu'une des composantes, c'est la vitalité. Qu'importe, cet élan est contrarié par une dure réalité. C'est que le mal existe, ça, c'est vraiment une réalité. Le monde moderne offre à sa jeunesse bien des anesthésiants. On peut dire des anesthésiants, hein, des drogues diverses, plaisirs, gadgets et endoctrinements de toutes sortes. Et ceux qui cherchent des émotions plus fortes pour oublier leurs déceptions vont vers des drogues dures, oui, plus ou moins destructrices. Les culpabiliser, les mépriser pour cette fuite, c'est décupler leur motif de fuir. C'est être complice de ce qui cause leur plus grande peur, c'est-à-dire le mépris. D'autres ne trouvent ni naïf ni stérile d'engager leur énergie dans l'action. Hobby de la photo, de la poterie, du sport, passion pour un groupe de théâtre ou une cellule politique, engagement dans l'alphabétisation, par exemple, des travailleurs émigrés ou à Amnesty International. Tout est bon qui met en contact avec une réalité que l'on peut améliorer. Tout est bon qui permet de vivre avec d'autres une lutte contre des éléments, une résistance et une création. Il vaut mieux allumer une petite bougie que de maudire l'obscurité, disait Confucius. Tout est bon qui permet de s'enthousiasmer et de s'émerveiller, nous voir, nous lamenter sur notre sort. Voilà bien ce que Satan, oui, le fameux Satan du livre de Job, souvenez-vous, l'ennemi du genre humain, espère obtenir de ce piège de la douleur qu'il nous a tendu. Souvent, l'exemple d'un aîné qui a su se passionner pour échapper au vertige du désespoir, pousse un jeune à se lancer à son tour dans une action, si modeste soit-elle. Le livre, comme témoin de l'invisible, de Yves Le Breton, Le sang de l'espoir, de S. Pizarre, malheureusement « out of print », donc plus imprimé. Certains adultes ont trop cherché pour eux-mêmes et pour leurs enfants le confort et la sécurité. Il n'est pas possible de galvaniser les jeunes en leur répétant 100 fois « As-tu fait ton lit ? N'oublie pas tes devoirs et passe d'abord ton diplôme ». Heureuses les familles où les parents se consacrent à la musique, au sport ou à une grande cause. Le chien à la niche. Oui, le chien à la niche a des puces, mais le chien courant n'en a pas. C'est ce que dit la sagesse populaire. Jésus n'offre pas une vie tranquille à ceux qui oseront le suivre. Du moment qu'ils ont traité de Belzéboul, ou si vous voulez de Belzébuth, le maître de maison, que ne diront-ils pas de sa maisonnée ? Je répète, du moment qu'ils ont traité de Belzéboul, le maître de maison, que ne diront-ils pas de sa maisonnée ? Saint Matthieu chapitre 10, verset 25. En effet, dans tous ces livres de sagesse, la Bible propose à l'homme de ne jamais mettre en son semblable son seul appui, sa seule confiance. Elle présente l'être humain dans sa vérité. Tel est ami et s'assied à la table qui ne te restera pas fidèle au jour de l'épreuve. Le Christ semble avoir prévu le reniement de Pierre et la trahison de Judas. La déception demeure, il est évident, elle est immense, mais elle ne conduit pas au désespoir, car le pire était au programme. La Bible nous montre cette vie terrestre comme l'apprentissage d'une autre vie. L'apôtre Paul, qui s'y connaissait en épreuves de toutes sortes, osait écrire aux Corinthiens « La légère épreuve d'un moment nous prépare bien au-delà de toute mesure une masse éternelle de gloire. » 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 17. On n'ose plus aujourd'hui annoncer le bonheur éternel vers lequel l'humanité est en marche. Le paradis est une promesse trop galvaudée. Recette à l'usage des oppresseurs de tout genre. Il n'est plus ni crédible, ni attendu. Mais n'a-t-on pas de la sorte muré les portes de l'espérance? Jésus-Christ n'agissait pas ainsi. Un jour, Jésus évoque les pires catastrophes que le monde puisse connaître. Les hommes mourront de frayeur, car les puissances des cieux seront ébranlées. Lorsque cela commencera d'arriver, redressez-vous et relevez la tête, car votre délivrance est proche. De même, en voyant les bourgeons du figuier, vous voyez que l'été est proche. Luc, chapitre 21, versets 26 à 30. Dans l'évangile de Marc, Jésus ajoute « guerre, tremblement de terre et famine ». Ce sera le commencement des douleurs de l'enfantement. Marc, l'évangile de Marc, chapitre 13, verset 8. Et il répète souvent, « Pourquoi avez-vous douté, homme de peu de foi ?» Saint Matthieu, chapitre 8, verset 26. Un jour, il précise, « Pourquoi êtes-vous angoissés comme les païens qui ne savent pas que Dieu est un Père ?» Matthieu 21, verset 22. Et Matthieu, chapitre 10, nous dit, « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais ne sauraient tuer l'âme. Craignez celui qui peut entraîner l'âme et le corps dans l'enfer. » Pas un seul moineau ne meurt à l'insu de notre Père. Et vous donc, vos cheveux sont tous comptés. Aussi soyez sans crainte, vous valez plus cher qu'une multitude de moineaux. Lisez et notez Saint Matthieu chapitre 10, versets 28 à 31. On a la preuve que la joie des martyrs chrétiens était si forte que parfois ils ne sentaient plus leur douleur. Cette joie ne reposait pas sur l'espoir que le bourreau renoncerait bientôt à son projet. Elle reposait sur un fait. Toi, bourreau, tu vas échouer. Ah! Tu veux m'écraser, tu veux me réduire au néant. Tu n'arriveras qu'à une seule chose, me faire rejoindre beaucoup plus tôt le Dieu que j'aime. les prophéties les plus riches d'espérance peuvent être lues comme un dès maintenant qui aura sa pleine mesure de joie dans l'au-delà. On ne te nommera plus délaissé comme un jeune homme épouse une jeune fille, ton Créateur t'épousera. Je répète, comme un jeune homme épouse une jeune fille, ton Créateur t'épousera. Isaïe, chapitre 62, verset 45. Cet avenir radieux est capable de colorer le présent le plus sombre, comme un résistant qui se bat avec plus de cœur au ventre parce que il croit que la victoire est proche. L'abbé Pierre raconte l'histoire d'un bagnard qui avait souffert comme un damné pendant 20 ans. À sa sortie de prison, se trouvant plus seul qu'un mort, cet homme avait tenté de mettre fin à ses jours. À son chevet, l'abbé Pierre murmure « Je n'ai rien à t'offrir. Mais s'il te plaît, avant de renouveler ton geste, viens m'aider. Aide-moi à reloger une famille qui dort dans le froid à moins 12 degrés. » Devant la joie des enfants relogés, devant leur sourire et la reconnaissance des parents, lui, le mal-aimé, qui n'avait jamais eu de famille, naissait à la vie. C'est pas merveilleux cela, mes chers amis? L'aventure colossale, géante, des chiffonniers d'Emmaüs était là tout entière en germe, au chevet de ce désespéré. Une formule résumait pour l'abbé Pierre sa découverte. Emmaüs ou la désillusion enthousiaste. En fait de désillusion, désillusion enthousiaste, eh bien la Bible n'est pas démunie. Tous ces textes crient l'attente de la réalisation de la promesse de Dieu. Un entêtement plus vivace que tous les défaitismes. Non pas l'espoir qu'inventent les hommes pour ne pas mourir. L'espérance vient au secours de l'espoir comme on greffe un rameau sauvage. L'espérance dit à l'espoir « Tu ne te trompais pas. Le seul tort de ton rêve, c'est de désirer trop peu. Parfois, peut-être, faut-il que l'espoir craque pour que naisse l'espérance. La foi est un doute surmonté. L'espérance, c'est un désespoir surmonté. Les motifs de découragement sont innombrables. L'inventaire des ténèbres de la condition humaine pourrait engendrer en nous le cynisme le plus total. Un philosophe contemporain prétend que tout est irrémédiablement pourri. S'il ne se suicide pas, dit-il, c'est pour avoir le temps d'inspirer à d'autres l'envie de le faire. Il est clair, je ne peux pas nier le mal. Je veux bien suivre les plus désespérés dans les pires bas-fonds. Je consens à diriger mon regard jusqu'à la boue la plus boueuse. Mais dans cet univers de cauchemars, j'emporterai le livre de la parole de Dieu. La Bible fourmille d'événements qui se retournent et deviennent des avènements. elle n'est pas un conte de fées pour bibliothèque rose. Le tragique n'est pas censuré. Il garde tout son poids de sang et de larmes. Au moment où l'on aurait le plus besoin que Dieu parle, eh bien, il se tait. Au moment où l'on voudrait qu'il agisse, il semble immobile. Pendant des années, les artisans de malheur ont le dernier mot. Tenez, prenons l'histoire de Joseph, fils de Jacob. Elle est exemplaire. Joseph est l'objet d'une jalousie farouche de la part de ses frères. Le grief, tu n'es pas comme les autres. L'homme a été inventé pour aimer et il peut ne pas aimer. C'est le libre choix. Aimer, c'est faire vivre. Ne pas aimer, c'est carrément tuer. Il n'y a pas d'échappatoire à cette alternative. Ou bien tu aides l'autre à s'accomplir, ou bien tu le laisses mourir. Tout homme recèle une puissance incroyable de vie et de destruction. Les manières subtiles de couper les vivres de l'affection ou de la dignité ne manquent pas. Les humiliations font périr nos indésirables à petit feu, ni vu ni connu. Joseph est jeté à 17 ans par ses propres frères dans une citerne asséchée. Ses frères réalisent qu'ils peuvent se faire un peu d'argent, ou si ils le sortent de son trou et le vendent comme esclave. 25 pièces d'argent, du fait vraiment une affaire, mais c'est pas si sûr. Les caravaniers revendent leur bétail humain à un certain Poutiphar en Égypte. Madame Poutiphar s'enflamme pour ce jeune hébreu très beau et le supplie de partager sa couche. Au refus de Joseph, elle répond par une dénonciation terrible. Joseph est mis en maison d'arrêt pour tentative de viol. Quel est donc ce monde où Dieu récompense si mal ses amis? Or, les années de sa jeunesse se sont gâchées. Seul, avec pour compagnon la vermine, les cafards et les rats. Mais celui qui ne désespère pas peut saisir la chance quand elle se présente. Il est en état de vigilance, il est en état d'attente active. La chance est chevelue sur le front et chauve sur l'arrière du crâne. C'est ce que dit un proverbe latin. Il faut la saisir dès qu'elle surgit, et pour cela, ne pas être crispé dans une angoisse stérile. Au lieu de hurler son désespoir dans ce sale trou à rats, Joseph fait l'inventaire des talents dont Dieu l'a pourvu. Il se souvient de sa compétence pour l'interprétation des songes. Vous connaissez la suite. Dans sa prison, son défi fut de ne pas désespérer. Joseph attendra tout de même 8 années. Un service rendu à un autre prisonnier ne sera pas oublié. Le maître de l'Égypte a un jour besoin d'un déchiffreur de songes. On parle de Joseph à Pharaon. Joseph et libéré, et passons sur tous les péripéties, ce serait trop long, Joseph va sauver de la famine toute l'Égypte et les pays environnants. Ses frères, qui ont voulu le faire mourir, viendront chercher auprès de lui de quoi pouvoir vivre. Joseph n'a aucune rancune. Il ne pense qu'à consoler ses frères de la douleur qu'ils lui ont causée. « Ne soyez pas triste de m'avoir vendu. » Mais, vous savez, au fond, c'est pour sauver vos vies que Dieu m'a envoyé ici. Lisez, mes chers amis, la Genèse, chapitre 45, verset 5. Et j'aimerais vous dire, et je vous ne cache pas, que j'ai pleuré quand j'ai relu toute l'histoire fabuleuse et merveilleuse de Joseph. Il embrasse ceux qui ont voulu le tuer, rendez-vous compte. Cette fois, c'est de joie qu'il pleure. Il n'en veut à aucun de ceux qui l'ont accablé de souffrance. Il conclut que tout cela fut un mal pour un bien. Entre-temps, Joseph s'est marié. Il a eu deux enfants qui portent des noms de victoire, magnifiques. L'un s'appelle Manassé, car Dieu m'a fait oublier ma peine. L'autre, Éphraïm, car Dieu m'a rendu fécond au pays de mon malheur. Genèse 41, versets 51 et 52. Chers amis, combien de saints et de saintes ont été traités comme des parias par leurs propres frères, Jean de la Croix, mis en prison pour rébellion, Benoît Labre, chassé des églises où il va prier, Don Bosco, menacé de l'asile psychiatrique. L'ombre de la bêtise fait resplendir le diamant d'un cœur généreux comme l'épaisseur de la nuit fait apparaître avec plus d'éclat la beauté d'une petite lumière. Par exemple, le prophète Osée est trompé par son épouse Gomère. Il est la risée des hommes assis dans les tavernes, le refrain des chansons à boire. Lisez le psaume 69, verset 13. Voilà qu'à travers sa douleur, il apprend une autre humiliation, celle de Dieu. Son histoire, presque triviale dans sa banalité, s'ouvre sur le drame le plus inouï de l'histoire du monde. Dieu est amoureux d'Israël et il n'en est pas aimé. Osée va pouvoir entendre la souffrance de Dieu. Il va devenir son porte-parole, son porte-voix. Mon peuple est malade de son infidélité. Mon cœur en moi se retourne, mes entrailles frémissent. Je vais te séduire, te conduire au désert. Je te fiancerai à moi dans la tendresse et dans l'amour. Osée, chapitre 11, versets 7 à 8, ainsi que le chapitre 2, versets 16 à 21. Cette voix douloureuse de l'amour trahi peut rejoindre le cœur de tout homme dans la détresse. L'humiliation d'Osée devient un terreau sur lequel pousse la plus belle fleur. Même les plus grands prophètes peuvent être écrasés par le vertige du suicide. Souvenez-vous Élie, couché sous un genêt Il chémit. C'en est assez, j'en ai vraiment marre. Seigneur, prends ma vie. Deux Rois, chapitre 19, verset 4. Voyez-vous, une femme terrible, Jézabel, venait d'envoyer à Élie la promesse qu'elle le ferait massacrer, ni moins ni plus. Au lieu de l'ange de la mort, eh bien Dieu met sur le chemin d'Élie un messager de vie. Allez, lève-toi et mange. Un Roi, chapitre 19, verset 7. Aussi Élie part en retraite spirituelle. 42 jours de désert dans le dépouillement absolu de tout ce qui n'est pas l'essentiel. Cette brise douce dans le silence et le Dieu de miséricorde qu'elle annonce. Un Roi, chapitre 19, versets 9 à 13. Aussi, quand Élie revient de Horeb, il n'est plus du tout le même homme. Ce ne sont pas ses difficultés qui ont changé, c'est lui. Il passe au bord d'un champ, rencontre un paysan, c'est Élisée, et lui donne l'investiture des prophètes. Ensuite, il dénonce avec passion les crimes du roi Achab. Sa parole brûlait comme une torche. Le roi finira même par se convertir. Le désespoir est fait pour être surmonté. Une espèce de sursaut insensé, comme un appel entendu au-dedans, courage, je suis avec toi. Après, lorsqu'il a triomphé, l'homme raconte l'épreuve qu'il évoque en 10 lignes aura duré 10 ou 20 ans. Tu m'as délivré des langues menteuses, des calomnies injustes. On m'entourait de partout et personne ne me soutenait. Je cherchais du regard un homme secourable et rien, absolument rien. Alors je me suis souvenu de ton amour. Seigneur, ô Seigneur, que c'est beau. Voyez-vous les souffrances qui provoquaient le désespoir peuvent changer de sens. Elles peuvent, chers amis, devenir un désert traversé par amour pour Dieu. Solitude, abandon, humiliation, privation, voici, Seigneur, ce à quoi j'ai consenti pour l'amour de toi. Ainsi pourraient s'exprimer tous les saints. Le venin du désespoir est alors extirpé. La souffrance est transfigurée par la foi. Thérèse de Lisieux imaginez Dieu lui disant à l'heure de sa mort, « À mon tour de te prouver que je t'aime. » Le tragique des événements demeure tragique. Suzanne, épouse de Joachim, n'a jamais failli à sa fidélité. Pourtant, elle est réellement déshonorée, salie, objet de honte, de dégoût et d'horreur. Ceux qui l'accusent sont puissants et considérés. Elle sera châtiée pour adultère, publiquement devant ses parents, ses proches et même ses enfants. Comment ne pas croire la déposition des accusateurs? Ils sont juges au tribunal. Rien ne dit à Suzanne qu'elle sera sauvée. la mise à mort à coups de pierre par une foule haineuse et certaine. Et c'est l'homme qu'elle aime, c'est son mari qui doit commander l'exécution. Ainsi le veut la loi. Pourtant, Suzanne est sûre de Dieu. Lisez Daniel, chapitre 13, verset 35. Dieu qui veut toujours sauver par l'entremise de quelqu'un va susciter l'esprit d'un jeune enfant. Lisez un peu Daniel chapitre 13, verset 45. Avons-nous songé que Dieu, pour arracher telle ou telle souffrance, n'avait besoin que de trouver un relais, un point d'application? Nous peut-être, vous peut-être. Le texte de la Bible est trompeur et semble nous faire faire l'économie de l'angoisse. On ne se perd pas en considération romantique lorsque on est chroniqueur en Israël. Que cessent les lamentations. Ô les cœurs, monte le chant de l'action de grâce envers celui qui a délivré le faible. L'assemblée entière passa de grands cris, bénissant Dieu qui sauve ceux qui espèrent en lui. Daniel chapitre 13, verset 60. Une pensée monte à mon cœur lorsque l'araignée noire de l'angoisse, la veuve noire, on peut imaginer, m'étouffe et me transmet son venin. Mais le Seigneur n'a-t-il pas délivré Moïse, Job et Jonas? Et pourquoi pas moi? Ce qu'il a fait jadis, ne peut-il pas le refaire? Est-il devenu manchot entre-temps? A-t-il fini d'être amour? Ne trouvera-t-il aucun intermédiaire, aucun messager pour me transmettre sa force? Une parole de saint Paul résume bien ce thème majeur de la Bible. Tout sert au bien de ceux qui aiment Dieu. Romains chapitre 8, verset 28. N'est-ce pas merveilleux cela? Éclairé par cette parole de Dieu, je ne veux plus me laisser engluer par les marées noires des moulineurs de chagrin. À trop nous laisser hypnotiser par la profondeur de l'ombre, nous risquerions d'ignorer le soleil. L'angoisse peut se traduire en fuite, en abandon de poste, en folie et amplifier le malheur. Je sais par expérience combien l'amertume blasphème tout, même les êtres les plus chers. Puisse Dieu nous préserver de ces raidissements de la méfiance, du doute et du soupçon. Au regard lucide qui dénonce les horreurs du monde, peut se substituer un regard plus lucide encore. Il nous faut penser à tous ceux innombrables que l'humiliation, oui, vous savez, quand on est humilié, c'est tout de même terrible, et que l'humiliation a failli vaincre, et qui n'ont pas été vaincus, alléluia. Au-delà des laideurs, c'est donc la tendresse de ceux qui ont mal aux autres qu'il nous faudrait apprendre à regarder. Oui, ce monde est carrément pourri où quelques généraux argentins peuvent faire disparaître 30 000 hommes ou un fou peut en exterminer 2 millions au Cambodge. Mais ce monde est béni lorsque le pardon répond à la haine, lorsque la foi en la vie fait écho au massacre. Oui, des conflits d'intérêts cherchent une solution par l'assassinat individuel ou collectif. Mais des Gandhi, des Martin Luther King, des Desmond Tutu prennent le risque de la non-violence et brisent le cercle vicieux de la spirale des vengeances. Oui, une crise économique provoque des licenciements, mais de nombreux entrepreneurs et syndicalistes luttent loyalement pour un meilleur emploi. Oui, des privations de liberté existent, inhérentes à toutes les dictatures, mais jamais la protection contre les atteintes aux droits de l'homme n'a été aussi universelle qu'aujourd'hui. Un seul Lech Walesa en Pologne, un seul Rodolfo Seguel au Chili ont plus de poids que les divisions blindées. Oui, l'avenir de la planète est menacé. L'équilibre de la terreur paraît de plus en plus fragile. Mais beaucoup ne se résignent pas et cherchent à faire tomber les tensions, les malentendus et les suspicions entre les États. Voyez-vous, je crois que près de 1 milliard d'hommes et de femmes et d'enfants souffrent carrément de malnutrition. Mais ce n'est pas inéluctable. Oui, les médias multiplient le visage de l'horreur jusqu'à la nausée. Mais ils peuvent aussi multiplier le visage de l'espérance. Ils sont capables de mettre le projecteur sur des actes contagieux de générosité, sur des hommes qui ne prennent leur parti d'aucune douleur. L'humanité n'a jamais cessé de rechercher les causes du malheur et de s'y attaquer. Il n'y a pas de fatalité, il n'y a que de l'indifférence. Lorsque on cherche à diminuer le mal, on n'a plus le temps de penser que tout est perdu. C'est le soleil qui explique l'ombre. Entre les cyniques et les naïfs, la place est grande pour les réalistes. Voici quelques années, j'entendis un missionnaire raconter ce qu'il eut à subir dans les prisons de Pékin. Il disait les tortures, les interrogatoires, les ongles arrachés. Et pourtant, il parlait de cette saison en enfer comme d'un voyage de noces. Un jour où il chantait tout haut dans sa prison, « Plus près de toi, mon Dieu !» Il reçut une salve de fusil. Loin de s'attendrir sur lui-même, il admirait l'obéissance de la sentinelle, vantait la patience du soldat qui lui charcutait la colonne vertébrale pour en retirer la balle. Aucune amertume, aucun esprit de dénigrement, aucun compte à régler, presque de la gratitude. Pauvre geôlier, vous ne pouvez tuer que mon corps. Jamais je n'ai été si proche de mon unique amour, Jésus-Christ. la plupart de ceux qui l'écoutaient crurent réellement qu'il avait le cerveau fêlé, qu'il était devenu fou. Mais le geôlier a compris et il a accepté Jésus-Christ comme son sauveur. L'horreur est là, avec la douleur insupportable, la tentation de renier et parfois même le reniement. Mais au bout de ce très long chemin, celui qui arrive pantelant, se traînant dans la poussière, à plat ventre, ahuri de joie, ne se souvient plus de tout ce qu'il a enduré. Voyez-vous ? Et comme Guillaume, après 4 jours et 4 nuits de marche dans la neige des Andes, il peut s'écrier « Ce que j'ai fait, je te le jure, aucune bête n'aurait pu le faire, mais c'est grâce à Dieu que j'ai pu le faire. » Avant de terminer ce CD, sachez que dans les moments les plus amers de votre existence, lorsque vous avez envisagé d'en finir avec la vie, lorsque vous y pensez aujourd'hui, ne savez-vous pas que le pire venait de votre révolte comme un oiseau pris au filet se débat et se déchire lui-même? Dans sa miséricorde, Dieu a peut-être placé des milliers de remèdes à notre angoisse. Pourquoi ne pas les inventorier comme nos ancêtres ont recueilli les plantes médicinales? Est-ce logique de fermer les volets et de crier en plein jour qu'il fait nuit? En Occident, le nombre des frustrés, paraît-il, augmente. Il y a passé 10 millions de diagnostics d'anxiété en France et en Allemagne. Sur notre planète, plus de 100 millions de personnes en dépression nerveuse sont recensées par le Service mondial de la santé. Certains de ces dépressions ne seraient-elles pas évitées avec quelques jours à la mer ou la campagne et beaucoup d'amitié? Dieu est là, avec des cadeaux pleins les bras, et nous crions qu'il nous oublie. Je connais des hommes et des femmes qui ont renoncé carrément à se donner la mort par la grâce d'une balade en montagne avec des amis, d'une symphonie de Mozart, du sourire d'une petite fille qui demandait son chemin. Écoutez ce cri d'un homme qui a mal à en mourir. Ma loulou est partie vers le pays de l'envers du décor. Un homme lui a donné 9 coups de poignard dans sa peau douce. C'est la société qui est malade. Ne perdons pas courage, ni vous, ni moi. Sans vouloir vous commander, je vous demande d'aimer beaucoup plus que jamais ceux qui vous sont proches. Le monde est une triste boutique. Les cœurs purs doivent se mettre ensemble. Pour l'embellir, il faut reboiser l'âme humaine. Je resterai un jardinier. Je cultiverai mes plantes de langage. À travers mes dires, vous retrouverez ma bien-aimée. Je pense de toutes mes forces qu'il faut s'aimer à tort et à travers, parce que le désespoir est un gouffre sans fond, parce que il me pousserait à me venger contre moi-même ou sur des innocents. je suis carrément acculé à l'espérance. Toute la douleur du monde, tout cet envers, tout cet enfer n'aura jamais le dernier mot. Chers amis, le Seigneur nous dit « Viens, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je vais t'en confier d'immenses, entre dans la joie de ton Seigneur. » Saint Matthieu, chapitre 25, verset 21. Et maintenant, avant de prier ensemble, j'aimerais vous dire les mots d'un très ancien cantique. Non, ta loi n'est point pénible pour quiconque est né de toi. Toute victoire est possible à qui combat par la foi. Seigneur, dans ta forteresse, aucun mal ne m'atteindra. Si je tremble à ma faiblesse, ta droite me soutiendra. D'un triste et rude esclavage, affranchi par Jésus-Christ, j'ai part à ton héritage, au secours de ton esprit, au lieu d'un maître sévère, prêt à juger et punir. Je sers le plus tendre Père qui est toujours prêt à me bénir. Prions maintenant ensemble. Ô notre Dieu, quelle arme tu mets à notre disposition pour combattre le bon combat de la foi auquel tu nous appelles? Nous te rendons grâce de ce qu'elles ne sont pas le privilège d'un petit nombre, mais de ce qu'elles sont à la portée des plus humbles de tes enfants, et de ce que par elles nous pouvons toujours vaincre en ton saint nom. Donne-nous de sentir toujours plus notre impuissance absolue, afin que nous recherchions chaque jour ton secours et que nous nous revêtions de ta sainte armure. Ô, fais que nous soyons vigilants, et si tu nous accordes la grâce de remporter quelques victoires, préserve-nous de nous endormir ou de nous engluer. Si le prince des ténèbres veille et tourne autour de nous comme un lion rugissant, cherchant qui il pourra dévorer, ne veillerons-nous pas aussi, afin de ne pas nous laisser surprendre par la tentation? Mais Seigneur, si l'esprit est prompt, la chair est faible, et nous te supplions de nous venir en aide. Nous te recommandons tous ceux qui sont tentés ou éprouvés de quelque manière que ce soit. Fortifie leur foi et mesure leur force à leurs besoins. Donne-nous de nous retirer maintenant dans le sentiment de ton pardon et prêt à te consacrer demain les forces que tu nous auras renouvelées pour ton service. Et ceci au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur bien-aimé. Amen. Et chers amis, n'oubliez jamais que Dieu vous aime et nous vous aimons également de tout notre cœur. Soyez donc bénis et merci surtout pour l'intérêt que vous portez à ces messages, parfois aussi quelques études un peu difficiles, mais vraiment, vous êtes des fidèles amis. À bientôt à nouveau, je vous salue dans le beau nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Au revoir.